c'est l'heure de jouer. C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Amis joueurs, amis joueuses, bonjour et bienvenue dans C'est Ludique. Avec ce nouveau confinement, le jeu de société est devenu essentiel, même si ce n'est pas le cas pour le gouvernement, puisque les boutiques de jeux ne font pas partie des magasins qui peuvent ouvrir, contrairement aux jeux vidéo. Bref, on va pas faire de polémique, mais je vais quand même vous lire le communiqué du groupement des boutiques ludiques, de l'Union des éditeurs de jeux de société, de la Société des auteurs de jeux et du réseau des cafés ludiques qui se sont associés pour ce communiqué. Alors, la culture française est une richesse extrême, littérature, musique, beaux-arts, gastronomie. À cela, il convient en 2021 d'y ajouter officiellement le jeu de société. Le jeu de société est largement assimilé par les Françaises et les Français comme un produit culturel, bien que non reconnu comme tel par l'État. Nous utilisons toutes et tous des jeux de société dans notre quotidien pour ses valeurs de partage, de convivialité, mais aussi pour des raisons éducatives, scolaires, voire également médicales, orthophonie ou psychologie. Le jeu nous accompagne tout au long de notre vie. Le jeu est une œuvre de l'esprit des autrices et auteurs, illustratrices et illustrateurs, scénaristes, des éditrices, des éditeurs, donne vie à des centaines de jeux chaque année. Malheureusement, le statut des auteurs de jeux de société n'est pas encore pleinement reconnu comme tel en France. C'est ce paradoxe français qui à ce jour met à mal nos boutiques ludiques. Les libraires, les établissements commerciaux à caractère culturel disposent de rayons de jeux et la grande majorité continue à les vendre chaque jour. Mais nos boutiques de jeux, puisque le jeu n'est pas encore considéré comme un produit culturel, restent fermées dans les zones à restrictions sanitaires et ne peuvent pas pratiquer leur métier, le conseil. Le monde ludique moderne est jeune, 25 ans d'existence qui en font un secteur encore fragile. Il s'est construit petit à petit grâce à des gens passionnés. Il a besoin maintenant d'une reconnaissance culturelle pour s'épanouir et que chaque actrice et acteur de la filière soit conforté dans sa participation à la création ludique. Nous appelons donc ardemment le ministère de la Culture à reconnaître le jeu comme œuvre de l'esprit. Un message que je voulais vous faire absolument passer. Alors au programme de cette nouvelle émission, un petit tour dans le jardin avec Botanique, le nouveau jeu de joueurs des Space Cowboys, ça tombe bien puisque le printemps est là. Un jeu que vous avez découvert pendant le confinement l'an dernier, Match 5, un jeu d'association d'idées, un très bon party game, mais aussi vous allez comme moi tomber sous le charme de Claire Harper, l'héroïne du jeu d'enquête suspect. Mon invité aujourd'hui c'est Charles-Amir Perret de Super Meeple. Avec lui on va revenir sur l'histoire de Super Meeple et parler notamment de Gorinto, un jeu abstrait que je vous présente maintenant. C'est Ludique, eh bien numéro 96, ça commence.
C'est Ludique, c'est l'heure de jouer.
Alors cette semaine, pour commencer ce C'est Ludique, je vais vous parler de Gorinto, un jeu abstrait localisé en France par Super Meeple, un jeu qui sort un peu d'ailleurs de l'ADN de Super Meeple, on va y revenir tout à l'heure. Alors Gorinto est un jeu de stratégie et de réflexion dans l'univers bouddhiste. Gorinto est une pagode de type japonais qui comporte 5 anneaux. Alors ces anneaux représentent la terre, l'eau, le feu, l'air et le vide. Tous ces anneaux sont représentés dans le jeu par des tuiles carrées en plastique de très bonne qualité qui s'imbriquent entre elles, que vous placerez sur le plateau. Au milieu, un carré de 5 lignes et 5 colonnes qui représentent la montagne et autour donc un chemin. Chaque joueur a un plateau Gorinto qu'il devra construire en récupérant les tuiles sur la montagne, mais ce n'est pas si simple que ça car vous ne pourrez pas prendre forcément celle que vous souhaitez. Il va falloir bien réfléchir avant de prendre une tuile sur le chemin pour valider les objectifs de la partie que vous poserez sur le plateau score au tout début. Alors comment on joue? Eh bien à votre tour, vous allez choisir une des tuiles sur le chemin. Cette tuile, vous devez la poser sur l'une des tuiles de la montagne, vous la superposez à une autre, mais pas n'importe où. Elle doit être reposée sur une tuile, soit sur la ligne ou la colonne de la tuile chemin prise. Exemple, eh bien je prends une tuile feu de couleur orange sur le chemin à la deuxième ligne, je dois donc poser cette tuile orange sur l'une des piles de la deuxième ligne. Jusque-là, rien de bien compliqué. Vu que j'ai posé une tuile orange, le feu, j'ai le droit de prendre l'une des tuiles de la colonne où je l'ai posée. C'est le schéma qui me l'impose, mais bien entendu, je n'ai pas le droit de récupérer la tuile du chemin. Pour l'eau, eh bien, c'est sur toute la ligne. Pour la terre, c'est sur la pile sur laquelle je me suis placé. Pour l'air, ça sera sur les 4 cases orthogonalement adjacentes. Et pour le vide, eh bien, c'est sur les 4 cases adjacentes, mais en diagonale. Vous voyez, un motif différent pour chaque élément du chemin posé sur la montagne. Là où les tuiles que j'ai récupérées, eh bien, je les pose sur ma pagode pour faire évoluer ma sagesse, ma connaissance. Au début, vous n'avez rien sur votre pagode, donc vous ne prendrez qu'une seule tuile de la montagne. mais après, en fonction du nombre de tuiles sur votre plateau de l'élément pris, eh bien vous pourrez en récupérer jusqu'à 4. Exemple, si j'ai 2 tuiles feu sur mon plateau, je pourrais récupérer 3 tuiles sur la colonne si j'utilise un élément feu du chemin pour me déplacer. Les tours eh bien, vont s'enchaîner et lorsqu'il y aura moins de tuiles sur le chemin que de joueurs, la saison se termine. La partie se joue en 4 saisons, 4 manches qui vont vous permettre de valider les 2 objectifs parmi les 12 que comprend le jeu. En plus de ces 2 objectifs, on a pour chaque partie 2 cartes éléments clés qui feront que les tuiles de certains éléments acquises et placées sur votre Gorinto rapportent chacune 2 points. Mais là uniquement en toute fin de partie. Mais attention, hein, tous les objectifs et les cartes éléments sont communs. La bataille pour récupérer des tuiles et améliorer vos connaissances s'annonce donc rude car il va falloir anticiper les prises, notamment si vous jouez à 3 ou 4 joueurs. Il faudra penser aux objectifs de saison mais aussi aux tuiles éléments qui comptent double. Une fois que tous les joueurs ont avancé leur marqueur en fonction des points récoltés, on décale le marqueur de score et on repart pour une nouvelle saison. Les tuiles restantes sur le chemin sont défaussées, on remet 10 nouvelles tuiles. Dans tous les cas, rien ne bouge sur le plateau central sur la montagne, on ne rajoute aucune tuile. Alors j'ai fait plusieurs parties et aucune ne ressemble à l'autre, hein, car les objectifs sont différents. Parfois, on va scorer si on a un nombre d'éléments identiques, parfois si on en a le moins et parfois si on en a beaucoup. Et puis, quand on prend les tuiles sur la montagne, on ne peut pas faire ce que l'on veut, hein. Il n'est pas possible de prendre moins de tuiles que votre connaissance vous le permet. En gros, même si ça ne vous arrange pas, si vous déplacez du chemin une tuile haut, si vous avez 2 éléments haut hein, sur votre Gorinto, vous êtes obligé de prendre 3 tuiles sur la ligne. On continue d'en parler justement avec Charles Amillard Perret d'ici 2 minutes. Pour la musique, c'est Dua Lipa qui arrive avec Love Again.
C'est Ludique, l'invité de la semaine.
Et mon invité cette semaine, c'est Charles Amillard Perret de Super Meeple. Bonjour Charles Amillard.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Alors avant de parler de Super Meeple, est-ce que tu penses que le jeu de société doit être considéré comme un bien culturel au même niveau hein, que le livre, le disque ou même le jeu vidéo aujourd'hui?
Ah, c'est une bonne question. Écoute, je sais qu'effectivement c'est un sujet d'actualité. Je vois pas pourquoi il ne le serait pas en réalité, hein, à mesure où il coche à peu près toutes les cases de ce qu'on appelle un objet culturel. Et que ça considère aussi, et c'est aussi selon moi en tout cas le loisir le plus intelligent qui existe. Donc si on considère que c'est un objet artistique, ce qu'il est quand même, qu'on voit le travail qu'il y a en termes d'édition, d'illustration, etc., plus le travail derrière d'intelligence dans les règles, dans les mises en place, au global, sans compter l'apport éventuellement culturel qu'il y a, parce qu'il y a quand même des jeux qui se basent sur des thèmes assez forts, ouais. Qui expliquent aussi, même dans les règles, et nous on le fait aussi de temps en temps, on essaie d'expliquer aussi historiquement pourquoi telle chose ou telle autre. Bref, c'est aussi culturellement, et ça apporte aussi quelque chose de ce point de vue-là. Donc globalement, je ne vois pas effectivement pourquoi ça ne serait pas considéré comme un objet culturel.
Aujourd'hui, il n'est pas assez reconnu le jeu de société, on est d'accord?
Même si on est sur un marché qui est vraiment dynamique, qui a une vraie ouverture, il y a quand même encore un fort pourcentage de personnes qui voient le jeu de société, déjà qui limitent le jeu de société au jeu qu'on trouve dans les supermarchés, ouais. Donc que tout le monde connaît, et ou alors effectivement considèrent encore que c'est un loisir pour un peu enfants attardés ou des adultes qui ont oublié de grandir ou des trucs dans ce genre-là, quoi. Ouais. Ce que je veux dire. Donc, effectivement, alors, même si je pense que les mentalités changent, et je pense qu'encore une fois en France, on est plutôt, on est loin d'être les moins bien placés, mais il y a encore beaucoup à faire. Ouais. Donc, ça reste encore un peu un objet à la marge.
Ouais. Alors, on va maintenant parler de Super Meeple. Comment est né Super Meeple?
Super Meeple, c'est né en 2014. L'idée de départ de Super Meeple, de création d'édition, donc c'était de faire de la réédition. Donc de se dire qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, même déjà en 2014, même si encore plus maintenant, mais déjà en 2014 il y en avait beaucoup, et se dire que parmi tous ces jeux, il y a quand même plein de jeux qui existent, qui ont été faits bien avant. Et qui sont très bons et qui méritent d'être considérés comme des piliers, des piliers ludiques que tout le monde devrait avoir. Donc on est parti dans ce sens-là, c'est en essayant de reprendre des jeux qui étaient édités et puis de leur donner un matériel qui est, on va dire, bien supérieur. En tout cas, selon nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec des jeux, notamment la Trilogie des Masses. Alors, le premier jeu édité, c'était Messica, ensuite on a fait Tika, la Moon Ray, etc. Après, on a changé un petit peu, mais l'idée de départ, c'était celle-ci. C'était ça de la création de Super Meeple, c'était ça.
Donc, du coup, vous avez recontacté les auteurs des jeux ?
C'est ça, on a effectivement recontacté les auteurs de jeux et du coup on a vu si les contrats étaient tout simplement disponibles.
Ouais.
Et si c'était le cas, on a signé des contrats avec eux pour reprendre les droits et pour pouvoir du coup les exploiter et du coup les utiliser. Donc voilà. C'est comme ça que ça s'est fait.
Et quand ça a commencé, du coup, vous ne pensiez pas à créer vos propres jeux ?
Alors, au début, non. Non, au début, c'était pas l'idée. C'était vraiment d'abord de faire de la réédition. Alors, au début, on ne se disait pas, on va rester absolument là-dessus.
Ouais. Enfin,
on a commencé comme ça. Ensuite, on a eu une première ouverture avec, lorsque Reinhard Knizia, on avait réédité à Moonray, le jeu de plateau,
ouais.
Et il nous a proposé à Moonray le jeu de cartes.
D'accord.
Qui est en l'occurrence, une déclinaison du jeu de plateau, donc en jeu de cartes, et qui était un nouveau jeu. Et donc là, c'est le premier jeu vraiment édité qu'on ait fait. Voilà. Après, petit à petit, pour différentes raisons, on a commencé à se développer en proposant des créations originales et puis aussi de la localisation, quoi. Voilà.
Et c'est quoi qui est plus simple aujourd'hui, d'éditer un jeu ou de le localiser ?
Le plus simple, c'est toujours de localiser quand même.
Ouais.
Hein. Le travail quand même évidemment bien inférieur au fait d'éditer des jeux. Donc oui, localiser, ça reste évidemment beaucoup plus accessible, dans la mesure où le travail il a été fait par l'éditeur d'origine en gros, et après le travail il est essentiellement de la traduction. Alors, après il peut y avoir quelques petites modifs involontaires, mais globalement ça reste assez léger. Après par contre il est plus sur la prise de risque, on va dire, globalement, parce que il se trouve qu'évidemment, les marges sont bien inférieures quand on fait une localisation plutôt que qu'on fait une édition. Donc, et qu'on ne peut pas non plus localiser un jeu à 500 exemplaires. Donc, on est obligé de prendre un certain risque en localisant un certain nombre d'exemplaires et en espérant que ça se vende. Voilà. Par contre, l'édition, on a quand même toujours la possibilité non seulement de le vendre en France, mais évidemment avec tous les partenaires à l'étranger.
Ouais.
Et du coup, d'en produire beaucoup plus.
Et comment on décide de localiser un jeu ? C'est un coup de cœur ? C'est un partenariat avec déjà un éditeur ?
Nous on travaille pas mal en partenariat, donc on a un partenariat il y a, on va dire, soit c'est un partenariat fort, donc on va dire on va localiser à peu près tous leurs jeux si on est complètement en confiance. Donc on va dire les deux éditeurs avec lesquels on marche principalement comme ça, le plus gros éditeur en tout cas c'est Feuerland, donc l'éditeur allemand notamment de Terra Mystica, Projet Gaia, etc. Donc ça c'est vraiment un partenariat, c'est-à-dire que voilà, nous on s'engage en gros à localiser tous leurs jeux.
Ouais.
Dans la mesure où ils en font deux par an, c'est raisonnable quand même, donc on peut prendre cet engagement là ou alors aussi Mindclash aussi pour Tricarion, vraiment Anachronie, etc. Et d'autres jeux qui viendront par la suite. Donc ça, ce sont des partenariats dans des sociétés, dans des éditeurs en qui on a entièrement confiance et qui sortent un nombre de jeux raisonnables par an, parce que sinon, on ne peut pas suivre. Ou alors, ce sont des coups de cœur plus. Et après, on connaît beaucoup d'éditeurs, donc ça va être certains jeux de certains éditeurs qu'on aime particulièrement.
Ouais.
On a fait Dice Hospital chez Alicat, ou Destin Dweller chez Artipia, il y a pas mal de.
Alors l'ADN de Super Meeple, on est d'accord, hein, c'est plus quand même le gros jeu, le jeu expert. Et là, avec la sortie de Gorinto, on est plus sur un jeu familial, abstrait. Comment Super Meeple a été chercher ce jeu ?
C'est une bonne question. Alors effectivement, on fait plutôt dans le gros jeu. Alors on a sorti quelques jeux qui étaient plus de gamme familiale. Celui-ci, en réalité, c'est assez simple, c'est-à-dire que le l'éditeur d'origine, qui est Grand Gamers Guild de ce jeu, c'est l'éditeur de Endeavor,
ouais.
C'est-à-dire le co-édition de Endeavor, donc qu'on a fait en français, et de The Artemis Project.
D'accord.
On a déjà travaillé avec deux, donc j'étais déjà en contact, et l'éditeur me contacte et me dit j'ai ce jeu-là. Est-ce que ça t'intéresse? La première chose, c'est que je trouve la couve très belle. Bon, ça, c'est un détail, mais enfin, c'est un détail, à la fois, ça n'en est pas un. En tout cas, effectivement, la couve m'attire. En revanche, quand je vois quand je vois que c'est un jeu qui est effectivement plutôt, on va dire, abstrait, moi personnellement, je suis pas spécialement fan du jeu abstrait. Donc au début, d'ailleurs, je lui dis non, c'est pas trop pour nous, etc. Et puis finalement, il assiste un petit peu. Il me dit, en plus, on peut le tester sur Tabletop Simulator. Donc du coup, on organise une partie test. Et moi, je trouve le jeu vraiment génial. Quoi. Je trouve que le jeu est vraiment bien fait. Ouais. Il y avait plein de bonnes choses. Donc du coup, j'invite d'autres personnes pour tester, pour pas évidemment prendre la décision tout seul, pour être sûr qu'il n'y ait pas que moi qui trouve ça vraiment intéressant. Et donc je le fais tester à différentes personnes. Et globalement, effectivement, l'avis qui ressort est vraiment très positif. Donc voilà. Donc on se dit, on connaît l'éditeur, on sait qu'il est sérieux, on sait que le matériel est bon, on sait que voilà, le jeu est très bon, donc pourquoi pas. Voilà, et puis c'est un test, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas, c'est pas le genre de jeu qu'on fait habituellement, mais c'est un test qu'on voulait faire.
Et le fait d'avoir des objectifs communs dans la partie, il faut aussi savoir anticiper. Hein.
Ah oui, ouais, alors c'est effectivement je trouve que c'est toute la saveur du jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va beaucoup changer d'une partie à l'autre, ne serait-ce que c'est effectivement qu'on a des objectifs qui vont être déterminants et qui sont définis pour toute la partie. Et finalement, d'une partie à l'autre, effectivement, on va avoir une stratégie où il va falloir davantage équilibrer, ou alors davantage au contraire avoir justement des écarts importants entre les différents éléments. Enfin, ça va donner une saveur particulière à chaque fois, et ça c'est vraiment sympa d'avoir cette mécanique-là.
Et il y a des extensions de prévues, je crois, pour Gorinto. Qu'est-ce qu'elles vont apporter en plus ?
En fait, il y a deux petites extensions qui sont déjà d'ailleurs disponibles. Hein. Le jeu vient effectivement avec deux extensions à côté de ça. Une extension qui est simplement cinquième joueur, donc qui permet de jouer jusqu'à 5 joueurs, parce qu'actuellement c'est de 1 à 4. Et donc du coup, il y a cinquième joueur, c'est-à-dire ça rajoute des tuiles. Et donc voilà, le mécanique est la même, simplement ça permet de jouer à 5 joueurs. Et une autre extension, qui est une mini-extension qui s'appelle Dragon, qui est composée de tuiles, donc de tuiles dragons qui sont, on va dire, pour le faire court, c'est une sorte de tuiles un peu joker. Donc ça rajoute un petit peu de stratégie dans l'ensemble, parce que donc c'est ça uniquement pour l'instant avec ces deux extensions-là.
Alors c'est votre premier jeu abstrait, Super Meeple, est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres maintenant ?
Il pourrait y en avoir d'autres. En tout cas, on est fermé à rien. Enfin, si, aussi. Enfin, on fait pas de jeux.
De jeux enfants, non.
Pas de jeux pour enfants, par exemple. Voilà, c'est sûr. Mais effectivement, maintenant, on est plus dans le familial et clairement expert. Mais après, voilà, globalement, abstrait, pourquoi pas. À partir du moment où, si c'est beau, s'il y a une vraie rejouabilité, c'est un vrai intérêt. Et puis, si ça peut aussi convaincre des gens qui sont pas des férus de jeux abstraits, comme c'est mon cas, d'accord, comme ça a été vu, par exemple, pour Azul aussi. Azul, qui est pour moi un petit peu qui est un peu le même genre, c'est un jeu abstrait avec une couche de thèmes. Ouais. Moi, je trouve le jeu très bon, et pourtant, je suis pas un fan de jeux abstraits. Donc, c'est pour les gens qui sont pas, pour les gens qui sont pas spécialement fans de Go ou des échecs. Mais que ça puisse plaire quand même, donc pourquoi pas. Donc on est ouvert effectivement on est même effectivement en test sur d'autres jeux un peu dans le même genre, à voir.
Ah, vous faites toujours attention d'ailleurs à avoir du beau matériel, c'est quelque chose d'important quand Super Meeple va localiser ou éditer un jeu.
C'est important, oui c'est important, c'est important, parce que c'est aussi une image qu'on a et qu'on veut garder. Après, on a déjà refusé des jeux qui étaient pourtant bons, mais dont le matériel ne collait vraiment pas. On va dire que c'est nécessaire. C'est sûrement pas suffisant, évidemment, mais par contre, c'est quand même nécessaire. Ouais, c'est nécessaire que ce soit. Après, il y a des jeux qui sont. Tous les jeux qu'on a sortis sont pas forcément effectivement très beaux, etc. Voilà, il y a un minimum. Après, on a fait quelques, on va dire, je peux considérer qu'on a fait quelques écarts, c'est-à-dire des jeux qui n'étaient pas particulièrement beaux, mais qu'on est dans la mécanique qui était vraiment particulièrement intéressante, et donc qu'on a voulu faire quand même. Quoi.
Combien de sorties par an ? Est-ce que ça a d'ailleurs évolué depuis le début ?
Oui, ça évolue pas mal. Oui, on a commencé la réédition, etc. On avait que du jeu, on en faisait genre un ou deux par an et donc on avait que ça. Après la localisation est arrivée, etc. Maintenant, et ça augmente effectivement, ça a pris un tournant quand même depuis 3 ans à peu près, où là on commence à sortir quand même pas mal de jeux. Maintenant je pense qu'on arrive à peu près à une cible cette année qui est de l'ordre de à peu près 15-16 jeux.
Ah oui, quand même.
Ouais. Dont seulement, hein, mais ça c'est notre cible, c'est dont seulement 2 jeux Super Meeval. Tout le reste,
d'accord,
c'est la localisation.
Ouais.
Comme c'est des jeux qui sont très longs à développer, on va sortir deux jeux cette année. Alors il y en a un, c'est un peu particulier pour le coup, c'est un jeu un peu léger, mais l'autre par contre il y a un très gros jeu. Et tous les autres jeux qu'on a pour l'instant de signer sont plutôt des gros jeux. Mais l'idée c'est bien pour Super Meeple d'éditer 2 jeux par an, un gros jeu et un jeu, on va dire, familial. Voilà.
D'accord.
C'est à peu près l'idée. Et le reste, ce sera la localisation.
On va le faire le tour rapidement des nouveautés 2021.
Oui.
Donc, du coup, là, il y a Gorinto qui vient de sortir. Il y a Tricerion aussi qui est sorti ou qui va sortir.
Tricerion qui est en cours de sortir. Il y a les personnes qui ont fait des préco qui l'ont déjà reçu. Mais la sortie boutique est prévue dans les semaines. Là,
Donc là, c'est un très, très gros jeu. Hein. Là, il faut avoir du temps.
Tricerion, hein. Oui. Tricerion, c'est vraiment des... Oui. Et là, c'est vraiment... c'est du très lourd. Hein. Il faut avoir peur de se taper des règles, etc. Par contre... Enfin, moi, je trouve que le jeu en vaut le détour. Enfin, déjà, je trouve qu'il, d'un point de vue graphique et thématique, je trouve qu'il est vraiment superbe. Je trouve que le travail était vraiment fait et remarquable. Et après, d'un point de vue mécanique, c'est vraiment extrêmement intéressant avec une énorme rejouabilité. Enfin, voilà. Bon, après, c'est un jeu effectivement destiné à un public qui est vraiment, vraiment expert. Donc ça, c'est les deux jeux qui sont sortis. Tricerion et Gorinto. Et le prochain, donc à venir, c'est la BD Marchand.
Ouais.
Donc la BD Marchand, qui est une de nos plus grosses sorties, je pense, de l'année. C'est un jeu vraiment particulier. C'est pas un jeu expert, moi je le qualifierais pas comme ça. C'est un jeu plutôt, on va dire, familial plus, que si on veut mettre une case. C'est-à-dire que voilà, ça reste accessible. C'est pas Tricerion, quoi, clairement. Mais ça demande quand même un peu d'expérience de jeu. Et la particularité, c'est que c'est un très gros jeu asymétrique. Alors moi j'adore les jeux asymétriques.
Ouais.
Je suis un gros fan de Terra Mystica et Projet Gaia notamment. Et là c'est un énorme jeu. Donc c'est un très gros jeu asymétrique. Avec chaque joueur va incarner un personnage avec sa propre mécanique de jeu et il y aura un plateau un plateau dans le central et l'interaction va se faire à ce moment-là puisque chaque joueur va produire des objets qu'il va vendre ensuite à des clients qui viennent sur un port et voilà et rien que le fait de découvrir les différents personnages qui sont tous très bien faits, tous bien équilibrés, ça c'est vraiment génial et ensuite après il y a une deuxième phase qui est évidemment essayer d'optimiser et de faire en sorte de bien jouer, etc. Mais les deux, et voilà, c'est le jeu est passionnant. C'est très beau, c'est illustré par Jeunico. Et voilà, ça c'est notre jeu qui arrive très prochainement. Donc là, on va lancer d'ailleurs la préco fin avril.
Ouais.
On va bientôt, comme on a fait pour Tricerion, et pour une sortie du jeu, donc fin mai, on va dire, enfin pour ceux qui auront la préco mi-mai, puis a priori pour les autres, le jeu devrait commencer à sortir fin mai.
Donc ça, c'est le titre phare de l'année, on peut le dire.
Non, je dirais pas le titre phare, parce que le titre phare, ce sera quand même notre jeu à nous.
Oui.
en termes de localisation, c'est parmi, oui, en tout cas, les jeux, oui, quand même, ouais, clairement, ouais.
Et alors, justement, votre jeu à vous, il arrive quand?
Ben, nous, on a 2 jeux cette année. On a 2 jeux. On a un jeu qui est coédité. Alors, c'est la première fois qu'on fait ça, mais on fait des amis, avec Tiki Edition, l'éditeur notamment de Lucky Numbers et de plein d'autres jeux qui est un ami et avec qui on joue depuis longtemps un jeu qui s'appelle L'Aboca. Donc pour le coup c'est une réédition. L'Aboca c'est un jeu de Inca et Marcus Brand. C'est un jeu avec des pièces en bois qui est vraiment génial qu'on joue depuis qu'il est sorti maintenant il y a plus de 10 ans. Et alors c'est vrai qu'on peut considérer ça comme un jeu vraiment party game à la limite. Hein.
D'accord.
Et où il faut essayer chacun effectivement une façade. À une vision 2D d'un bâtiment et il faut essayer le plus vite possible en mettant les pièces en bois de faire en sorte de faire la façade que chaque joueur voit. Donc ça c'est un super jeu c'est une réédition qu'on a appelé Recto Verso et qui devrait sortir à peu près en juin normalement.
Ah oui, donc c'est pour bientôt aussi.
Oui, c'est ça. Alors ça pour le coup c'est un peu particulier pour Super Meeple parce que c'est un des jeux, c'est même le jeu le plus léger qu'on ait sorti pour le coup, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment un coup de cœur perso ce jeu depuis longtemps et on voulait travailler ensemble avec David de Tiki et donc ça c'est un jeu c'est le jeu qui sort en début d'année et en fin d'année C'est un jeu qui s'appelle... alors, le jeu va s'appeler Virtue.
Ouais.
Qui est en fait le jeu dont le prototype avait pour nom Les Maîtres d'Italie. Donc, c'est un jeu d'un auteur français qui est un jeu qui va en fait se présenter en plus une double mécanique. C'est-à-dire que le jeu, on pourra se jouer avec deux mécaniques différentes et qui est un gros jeu qui mêle un petit peu... qui mêle un petit peu de... Alors, comment dire, il y a de l'intrigue, il y a de la négociation,
d'accord,
il y a du commerce, il y a de la gestion, il y a un peu de combat, il y a un peu, voilà, c'est très gros, hein, c'est vraiment expert, et voilà, on est très content de ce jeu, moi j'adore ce jeu, je trouve qu'il est il est assez complexe à aborder, mais il y a une vraie satisfaction parce que c'est vraiment très très bien fait, quoi. Voilà, donc ça sera normalement pour fin d'année, pour octobre.
En tout cas, il y a de l'actu chez Super Meeple. On aura l'occasion, hein, d'en reparler dans C'est Ludique. Merci beaucoup, cher Lamir, d'avoir été sur Millennium.
Eh bien, merci beaucoup. Ouais, bonne journée. Merci.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes et on va partir sur un jeu à deux, un jeu autour des fleurs botaniques.
C'est Ludique, ça vient de sortir.
Depuis quelques semaines, les fleurs sont sorties. Du coup, aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous parler de botanique, une science consacrée à l'étude des végétaux. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vous faire un cours, on est là pour parler de jeux. Voici donc Botanique, avec un K à la fin, hein, comme c'est ludique, le nouveau jeu de Franck Critin et Grégoire Larget qui ont laissé Marguerite dans les prés le temps d'une rencontre avec Sébastien Pochon pour nous emmener dans un monde particulier, celui qui mélange la mécanique à la végétation. Alors, dans le nouveau jeu de la gamme de joueurs des Space Cowboys, vous allez devoir créer le meilleur réseau pour devenir le meilleur des méca-botaniciens. Voilà le décor est planté. Il est temps de vous présenter le matériel. On va rentrer dans le laboratoire de la chercheuse Béatrice Buzy qui permet de générer toutes sortes de végétaux. On retrouvera le registre de Béatrice, un plateau composé de 5 colonnes, puis différentes tuiles de couleurs avec des végétaux et des tuyaux qu'il faudra relier entre eux. Mais parfois, on pourra croiser des tuiles botaniciens. Alors, comment on joue ? Chaque joueur prend une tuile et la pose de son côté, puis on remplit le registre avec 5 tuiles que l'on place au milieu et ensuite on forme une pioche avec les tuiles restantes. Le pion méca de grande qualité indique quel est le premier joueur. Le premier joueur donc va piocher 3 tuiles et les pose face visible près du registre. Il va en choisir une, puis son adversaire également. Chacun les posera sur le registre. La troisième tuile est posée par le premier joueur, mais le pion, hein, méga change à chaque tour. Cette tuile peut être posée soit de son côté, soit au milieu. Mais attention, on ne peut pas les poser comme on veut. Si on décide de là où les poser de son côté, il faut que l'espace soit libre et qu'elle corresponde à la tuile de la colonne placée au milieu du registre, soit par sa couleur, soit par sa forme. Si ce n'est pas possible, eh bien, il ne vous reste qu'une solution, la placer sur l'une des tuiles centrales du registre, et là, vous la placez où vous voulez, il n'y a pas de restriction, sauf que la tuile posée au centre doit avoir un lien avec les tuiles sur les côtés, soit par la forme, soit par la couleur. Si jamais, eh bien, il n'y a pas de lien, les tuiles en face de la tuile centrale seront libérées, délivrées. Ouais, bon, je m'emballe, ils sont récupérés par les joueurs qui peuvent les mettre dans leur jeu pour former leur circuit et agrandir leur machine. Vous pourrez très bien libérer une de vos tuiles, mais aussi celle de votre adversaire. C'est la première étape du jeu. Ce qui nous intéresse, c'est de faire fonctionner notre machine pour faire pousser des fleurs et des légumes en libérant justement les tuiles du registre. Ces tuiles libérées doivent obligatoirement être posées, même si ça ne correspond pas trop à notre circuit. Retenez ces choses, un tuyau doit toujours rejoindre un autre tuyau. Une tuile doit toujours être adjacente à une autre tuile et pas de circuit fermé. Il faut toujours laisser au moins une possibilité de continuer notre machine. La partie s'arrête quand un joueur a pris la dernière tuile de la pile et on compte les points. C'est là que votre machine a intérêt à être harmonieuse si vous voulez scorer. Déjà, les tuiles non reliées à votre source, ben on les enlève. Puis ensuite, on gagne un point par tuile reliée de même couleur. Il faut en avoir quand même au minimum un 3 de reliée. Et c'est pas tout, hein, sur vos tuiles, parfois vous avez des fleurs. Ces fleurs, eh bien, vous rapportent un point par fleur sous certaines conditions. Alors, dernière chose, au début, je vous ai dit qu'il y avait des tuiles méca-botaniciens. Au niveau du registre, eh bien, ça fonctionne pareil, forme-couleur. Mais si la tuile méca-botanicien est libérée, vous devez choisir n'importe quelle tuile en haut d'une pile de la piste centrale qui viendra directement sur votre machine. Et ça peut aussi libérer peut-être d'autres tuiles chez vous, mais peut-être aussi chez votre adversaire. Botanique nous transporte dans un univers peu présent dans le jeu de société, un thème très bien adapté à la mécanique du jeu. Anne-Marie nous explique sa stratégie, en tout cas, Un conseil, hein, toutes les tuiles posées non reliées à la source, vous pourrez les oublier.
Botanique. C'est un nouveau jeu en duel très bien réalisé. Il paraît simple et je me suis fait prendre par sa simplicité apparente. Mais finalement, c'est un vrai jeu de stratégie où chaque coup doit être réfléchi. Je me suis un peu précipitée, j'ai voulu rejoindre deux chemins et finalement, il m'a manqué deux tours pour réaliser mon objectif. Du coup, j'ai raté ma stratégie, mais j'ai vraiment passé un bon moment en essayant de réaliser mes chemins en mettant le plus de fleurs possible.
C'est ludique, ça vient de sortir.
Vous aimez le petit bac où il fallait deviner des mots en rapport avec un thème, un prénom, un pays, un légume? Eh bien, vous allez adorer Match 5, le nouveau jeu de Synapse Games, dont l'auteur est aussi l'éditeur, Karl Brière. C'est son deuxième jeu après Incubation, mais rien à voir, là on est dans un party game. Et si ça vous dit quelque chose, bah c'est normal, on vous en avait déjà parlé il y a un an dans C'est ludique pendant le confinement. Car Karl Brière avait décidé de proposer une partie de son jeu en print and play, mais là, rien à voir, on a DD, c'est coloré, le matériel est vraiment top et bien pensé. On a des grilles thématiques à trous où l'on placera des dés avec des thèmes qui vont de Sadlis à Lan ou encore Walt Disney. À chaque fois, vous allez devoir associer deux thèmes pour trouver un mot. Alors à vous de trouver les mêmes mots que vos adversaires pour matcher et marquer deux points. Mais si vous avez une réponse différente et qui correspond au thème, eh bien vous marquerez quand même un point. Alors après, tout dépend avec qui vous jouez, hein, parce que certains seront plus sympas que d'autres. Je dis ça, mais je dis rien. Alors, comment on joue? On va placer 5 plateaux à mots de couleur, rouge, violet, blanc, jaune et bleu, où à chaque fois, il y a un emplacement 2D. Ces mini-plateaux sont recto verso avec des icônes et des thèmes. Une icône sera d'ailleurs utilisée deux fois, mais pas avec le même thème, ce qui permet d'avoir de nombreuses possibilités et une très bonne rejouabilité. Alors toutes ces icônes, vous allez les retrouver sur les dés. En jetant les dés, on saura quels mots de la tuile seront choisis pour cette manche. Un symbole égale un mot. Alors une fois que tout est en place, c'est-à-dire 15 secondes, chaque joueur reçoit une feuille où il devra faire ses associations. Jaune et bleu, rouge et blanc, blanc et bleu, violet et jaune, bref, hein, vous avez compris, il y a de nombreuses combinaisons possibles. L'un des joueurs lance les dés, 5 au total de couleurs différentes, et les place sur les plateaux selon les symboles. Vous avez maintenant 3 minutes pour faire toutes les associations d'idées possibles de votre feuille. Et contrairement au petit bac où l'on barrait quand on avait les mêmes réponses, ici on match, il faut essayer de trouver les mêmes réponses que les autres joueurs. Car comme je vous ai dit, hein, les réponses communes rapportent 2 points, tandis que si vous êtes le seul à avoir indiqué une réponse, eh bien vous ne gagnez qu'un seul point. Mais bon, parfois l'inspiration ne vient pas tout de suite, il vaut mieux marquer un mot ou une phrase que rien du tout. Ça ne veut pas dire, hein, d'ailleurs, que les autres joueurs accepteront votre réponse. Oui, bah oui, parce que dans Match 5, tout le monde fait un petit peu l'arbitre. Par exemple, j'avais pays et LAN. Alors beaucoup de joueurs ont mis la Suisse, mais moi j'ai dit la France avec la vaccination. Et la majorité a accepté, du coup bah, j'ai marqué un point, alors que je pensais que personne n'aurait accepté ma réponse. Franchement, on a passé un bon moment autour de Match 5, ça fait du bien en ce moment, et la bonne nouvelle, c'est que c'est un jeu où vous pouvez jouer à distance, et c'est bien pratique avec cette période de confinement. Le concept fonctionne super bien, ça se joue aussi bien en famille qu'avec les amis, et au final, on trouve toujours quelque chose à dire. Il y en a des plus faciles, forcément, un véhicule et Walt Disney. On aurait pu penser que tout le monde allait mettre Cars. Eh bien non, certains ont eu plus d'imagination. Vous verrez que 10 associations d'idées en 3 minutes, c'est chaud. Un jeu qui plaira à toutes les générations. En plus, les illustrations de Silly Jelly sont vraiment sympas. L'illustratrice, hein, de Quattle a su rendre beau un jeu d'ambiance. C'est Karine qui nous parle de Match 5. Alors, on vient de jouer à Match 5, Karine. Qu'est-ce que t'as aimé dans ce jeu? Alors, je te demande pas ta stratégie, parce qu'il n'y a pas vraiment de stratégie, mais il faut quand même bien réfléchir et avoir un peu aussi des idées, aller chercher des idées de nulle part.
C'est ça, des idées de nulle part, des fois, c'est ce qui marche le mieux. Après, il faut être super rapide, ça, c'est pas évident. Mais c'est un jeu super sympa, parce qu'après, on bataille un petit peu pour valider ou pas les réponses des autres. Il y a un peu de mauvaise foi des fois, j'avoue, hein, pour ma part. N'est-ce pas, Anne-Marie?
Je vois pas de quoi tu parles.
Allez, on va faire un petit exemple. Ouais. Quelque chose qui se casse et qui est lent.
Ben, un escargot, Mathieu. C'était ta réponse, non?
C'est ça. Pourquoi ma réponse?
Eh ben, parce qu'il s'en va très lentement pour se casser d'un endroit.
Voilà. Bon, ben voilà, faut trouver, hein, des associations d'idées. C'est pas évident, hein, vous allez voir.
C'est ludique, ça vient de sortir.
Ça vient de sortir, mais ça pourrait être déjà un indispensable. Connaissez-vous Claire Harper? Son nom ne vous dit rien, je vous propose d'enquêter avec elle pour découvrir le nouveau jeu et premier jeu d'enquête de Studio H. Alors oui, des jeux d'enquête, il y en a plein, c'est sûr, mais vous allez voir que Suspect apporte de nouveaux. Et puis Claire Harper, c'est la meilleure détective, elle sait tout, elle trouve tout. Suspect est un jeu d'enquête de Guillaume Montiage, connu notamment pour avoir créé le jeu Kemet, un jeu d'enquête littéraire, comme le sont les romans d'Agatha Christie. La boîte, la première, mais il y en aura certainement d'autres, propose trois scénarios, un peu comme les Unlock, mais clairement le jeu n'a rien à voir, Suspect n'est pas un jeu d'escape room. À chaque enquête, vous aurez un questionnaire avec des questions classiques. Qui est le meurtrier ou la meurtrière? Quel est le mobile du crime? Et aussi des questions précises, comme par exemple, quel est le mystère des trois objets alignés ou quels sont les trois objets utilisés pour le crime? Sur ce questionnaire, vous aurez des cases pour savoir le nombre de cartes piochées. Moins vous allez piocher de cartes et plus vous aurez de points. Je vous conseille clairement de prendre un papier et un crayon pour noter vos déductions. Alors au niveau matériel, forcément, on va retrouver des cartes avec trois enquêtes, des plans, des documents et puis trois enveloppes avec la solution. C'est toujours difficile de parler d'un jeu d'enquête sans révéler trop de choses. Déjà, je peux vous dire que la première enquête, Meurtre au manoir à Lister, est super bien ficelée. Il est important d'analyser toutes les cartes car il y a pas mal de détails. Faites bien attention aux phrases et aux traits de couleur au bord des cartes, entre autres. Alors, vous allez être un vrai détective, suivre des pistes, faire des choix. Vous pourrez interroger une personne, vous rendre à un endroit, regarder un plan, un élément en particulier. Si vous interrogez une personne, il vous donnera plusieurs possibilités pour en savoir plus sur telle ou telle personne. Si vous regardez un lieu, parfois il y aura de nouvelles choses à découvrir. Vous pouvez également trouver des indices comme des traces ou des empreintes. Bref, je m'arrête là, je ne vais pas en dire de trop. Parfois, vous verrez des symboles sur les cartes qui vous permettront de regarder une autre carte si vous en avez assez. Alors, mais attention, dans Suspect, plus vous allez regarder de cartes et donc découvrir de nouvelles pistes, et plus vous perdrez de points. Alors ne perdez pas de temps et allez à l'essentiel encore. Il faut être sûr de son choix, un peu comme dans les enquêtes de Crime Zoom, mais encore plus poussé pour voir si un objet, une empreinte correspond à un suspect. Il faudra assembler les cartes. Si le lien de couleur correspond, on peut dire que l'on est sur la bonne piste, mais attention à ne pas trop vous emballer. Quand il n'y a plus de cartes à regarder, bien l'enquête est terminée. Il ne reste plus qu'à s'auto-évaluer pour voir si les réponses au questionnaire correspondent bien à la solution qui est dans l'enveloppe. Et voir combien de cartes vous avez eu besoin pour trouver la solution. Alors si votre réponse est correcte, vous marquez le nombre de points correspondant à la case questionnaire cochée. Par exemple, vous avez trouvé le meurtrier avec seulement 26 cartes, vous marquez 5 points. Avec 32 cartes, vous marquez 4 points. Et si vous avez utilisé plus de 46 cartes, dans ce cas, vous marquerez que 3 points. Et on fait la même chose pour toutes les questions. Ça peut arriver de changer de réponse en cours de jeu. Dans ce cas, c'est la dernière réponse indiquée qui est correcte et le nombre de points associés. Ici, il n'y a pas de temps, donc n'oubliez pas de compter les cartes. Si vous aimez les jeux narratifs, c'est sûr, Suspect est fait pour vous. On a affaire à un jeu bien scénarisé. Clairement, il va renouveler les jeux d'enquête. On hésite parfois dans quelle direction aller. Puis on pense avoir trouvé, puis on fait marche arrière. Ah oui, j'oubliais. Si vous faites 0 points, c'est mal barré, vous n'avez certainement pas trouvé le meurtrier. Par contre, à 25 points, vous êtes sûr qu'il passera sa vie derrière les barreaux. Pour ma première enquête, Meurtre au manoir à Lister, nous avons fait 21 points, un score plutôt pas mal, j'avoue. En tout cas, on espère retrouver Claire Harper bientôt pour d'autres aventures, mais en attendant, je vais continuer mes enquêtes et trouver d'autres suspects. Allez, je vous laisse, la dernière tirade m'attend. Claire Harper aussi d'ailleurs, et je ne peux pas faire attendre une charmante détective. Anne-Marie a joué, ouais, aussi à Suspect, ne m'a pas laissé seule avec Claire, et elle vous en parle.
Suspect. Alors voilà un nouveau jeu où nous sommes une détective en recherche de l'assassin, du mobile et de tout ce qui l'entoure. Comme je suis joueuse, je voulais trouver les réponses en moins de 30 cartes. Franchement, ce n'est pas évident de trouver toutes les réponses avec seulement ces 30 cartes. Le jeu est bien construit, intriguant et nous fait vraiment rechercher les réponses. Il faut oser, chercher et déduire sans même avoir toutes les réponses ou avoir lu toutes les cartes. Alors je ne peux que vous souhaiter une bonne chasse aux suspects.
Voilà, Suspect, donc un jeu d'enquête signé Studio H. Bon, comme je vous ai dit, je vous laisse parce que je dois aller retrouver Claire pour la prochaine enquête. Allez, salut, c'est Ludic, reviens la semaine prochaine. En attendant, jouez bien.